Alors, webinaire numéro 2 d'un certain nombre de webinaires que nous allons avoir avant de nous voir face à face à Londres. Aujourd'hui, nous avons avec nous Léo Vegoda, qui est le directeur des opérations et du personnel de l'IANA, qui va nous parler de la transition IPv4 à IPv6 et du renforcement des capacités qui est nécessaire au niveau mondial sur les différentes questions qui concernent ce sujet. Comme vous le savez, nous n'avons plus d'adresse disponible. Nous avons un certain nombre de questions qui se posent par rapport au nom de domaine. Et tous les ordinateurs connectés à Internet ont des chiffres. Donc il s'agit de voir vers quoi nous nous dirigeons et comment allons-nous procéder. Je crois que je vais passer dès maintenant la parole à Léo pour qu'il nous fasse la présentation. Léo, micro, merci beaucoup. Passons à ce qui figurait à l'ordre du jour. Je vais passer en revue un historique de l'adressage IP, des tailles relatives de l'IPv4 et IPv6, puis voir quelles sont les équivalences de caractéristiques, certaines technologies de transition pour nous aider à passer de l'IPv4 à l'IPv6, voir certains graphiques qui nous montrent le statut actuel du déploiement de l'IPv6, puis à la fin, une séance questions-réponses où je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser. Donc, continuons. Ce que nous avons ici, c'est une photo de Windsurf. Windsurf, c'est l'une des deux personnes qui a créé le protocole Internet. La raison pour laquelle je vous montre cette photo de Windsurf, c'est parce qu'il a été le directeur du projet et c'est lui qui a pris en charge ce projet. En fait, selon le projet original, nous ne devrions pas aujourd'hui être connectés à l'Internet tel que l'IPv4. Nous utilisons pour l'IPv4 32 bits et un espace d'adressage sur 32 bits, qui est beaucoup plus grand que tout espace précédent. Et à l'époque, il y avait un espace d'adresse de 8 bits avec donc 16 bits. Avec 32 bits, nous avons plusieurs millions de possibilités. 4 millions. Parce qu'aucune des expériences qu'il envisageait ne prévoyait plus de 4 milliards de hosts. Donc voyons quelles sont les trois phases que nous avions jusqu'à présent avec l'IPv4. Le plan à l'origine était qu'il n'y aurait que 256 réseaux, jusqu'à 256, et chacun pourrait avoir jusqu'à 16 millions d'adresses. Et en un an, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas marcher. Ils ont trouver ce qu'ils ont appelé « classful addresses », donc l'adressage en classe. Donc, soit vous avez un réseau qui était suffisamment grand pour héberger 16 millions d'adresses, ou 65 millions d'adresses, ou un petit pour 256 réseaux. Qui s'est passé jusqu'au début des années 90, époque à laquelle les gens se sont rendus compte qu'il n'y aurait pas suffisamment d'espace avec le réseau de taille moyenne, il y a eu deux efforts qui ont été développés pour résoudre ce problème à court terme, à savoir le développement des side-ups, le CIDR, c'est-à-dire Classless Interdomain Routing, le routage interdomaine sans classe. Ce routage a été développé au début des années 90, ainsi que le NAT, la traduction d'adresse réseau. On en a tous fait l'expérience, parce que lorsque vous avez une adresse unique et plusieurs outils multiples qui partagent cette même adresse, donc c'est utilisé pour identifier une ligne personnes inscrites. Donc, ça a été le développement ou la solution à court, moyen terme. Pour continuer à avancer, voyons rapidement les dates marquantes. Officiellement lancé en 1980, puis les classes ont été introduites en 81, le CIDR introduit en 93. L'ARIN, l'American Registry for Internet Numbers, a été créée en 97. Et l'ARIN n'est pas plus importante qu'un autre registre, mais c'est parce que l'ARIN est passé d'un contrat gouvernemental pour la distribution des adresses IP à une fonction qui revient à la communauté. Donc ça a été la fin du registre au bureau d'enregistrement central, la fin d'un contrat gouvernemental, et ça a été marquant dans le sens où ça a été la formalisation, le début de la formalisation de la participation multipartite à cet égard. La première politique mondiale a été développée en 2005 et la deuxième politique mondiale pour l'IPv4 et pour la distribution des adresses IPv4 a été développée en 2009. La dernière IPv4/8 a été allouée ou assignée en 2011. Voilà donc un petit peu pour l'histoire de l'IPv4. L'IPv6, il y a un petit peu de chevauchement là, comme vous pouvez le voir avec l'IPv4. Cette annonce a été faite en 99. Les fonctions de l'IANA, qui à l'époque étaient assumées par l'ICANN, ils ont assigné les adresses au RIR qui pouvait assigner des adresses au FSI. Et ça a eu lieu 3 ans après la normalisation du protocole. Donc une fois que cela était possible, on a commencé à l'appliquer au logiciel. À l'origine, ça a été sur les logiciels. Donc, voyons quelles sont les tailles de l'IPv4 et de l'IPv6. Et ici, j'ai un dessin très connu qui date de 2006. Tout ce que vous voyez en vert, ce sont des blocs IPv4 non alloués. Tout ce qui est en blanc a été alloué. Donc, ce que vous voyez, c'est que entre un tiers et un quart de l'espace des adresses devait être alloué. Donc, en l'espace de 26 années à peine, tout l'espace des adresses IPv4 avait été assigné. Si vous passez à la diapo suivante, vous voyez un dessin qui date de 2011 et qui montre un espace de 128 bits. Les petits points, c'est ce qui a été assigné. Puis vous voyez ce qui a donné lieu à cette cartographie. Et vous pouvez vous-même en avoir une idée en voyant les changements depuis 2011. Ces changements ne sont pas significatifs, non pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de déploiement de l'IPSS, mais parce que le volume d'adresses IPv6 est très faible par rapport au volume total de l'IPv6. L'espace de 128 bits est beaucoup plus grand, 4 fois plus grand que la taille de l'espace de 32 bits. Donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que cela signifie pour moi et quelles sont les différences. Donc, j'ai ce panneau indicateur australien bien connu à gauche, 64. Alors, dans l'IPv4, chaque adresse individuelle est précieuse. Il y a des milliards de personnes, des millions d'adresses IPv4, et il y a la moitié d'adresses pour le nombre de personnes. Donc nous avons un problème. Dans l'IPv6, chaque segment de ligne a 18 trillions d'adresses, grosso modo. Donc c'est une différence énorme. Donc nous avons des segments LAN. Et les orientations initiales étaient d'allouer des slash 48 à des individus particuliers. Et le slash 48 est de 65 536. Donc même pour une personne extrêmement riche et puissante, elle va pouvoir s'en sortir avec le slash 48, elle n'en aura pas besoin d'un autre. Et pour la plupart des gens, c'est très certainement suffisant pour les années à venir, parce que dans un foyer relativement modeste, cela va suffire. Et ensuite, il n'y a aucune difficulté pour obtenir un slash 48. Donc, il y a une assignation pour obtenir une allocation slash 48, slash 32, et l'assignation minimum dans le monde est de slash 32. Donc, si vous êtes un petit fournisseur de services Internet, vous aurez une solution. Si vous êtes un fournisseur de services Internet qui desservait un petit état insulaire, très certainement le slash 32 sera suffisant pendant plus de 10 ans certainement. Et les fournisseurs de services Internet beaucoup plus grands peuvent obtenir d'autres tailles. Dans le cadre des fonctions de l'IANA, le slash 12 est suffisant pour 1 million slash 32. Donc, pour les segments de ligne et pour les connexions des foyers, donc il y a beaucoup de possibilités pour les fournisseurs de services Internet, et pour les petits fournisseurs de services Internet également. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont venir. Je n'ai pas pu les mettre ici à l'écran, mais il y a pour bar slash 12, pardon. Si l'Internet se développait au rythme extraordinaire auquel il se développe, il faudra attendre 100 ans avant d'arriver à bout ou d'épuiser les adresses de l'IPv6. Donc on a encore beaucoup d'espace à notre disposition pour travailler. Il est très important de savoir que nous avons un Internet extrêmement bien développé et déployé. Donc, si les gens vont adopter l'IPv6, il faut que l'IPv6 offre à ces gens tout ce qu'ils ont dans l'IPv4. Faute de quoi, ils ne vont pas choisir l'IPv6. Donc, qu'avons-nous à leur proposer ? Nous avons des systèmes qui sont compatibles avec les ordinateurs portables, les ordinateurs à la maison. Également, les réseaux d'infrastructures et les équipements de réseaux d'infrastructures sont compatibles, pleinement compatibles avec l'IPv6. Il y a toujours certaines choses qui sont plus lentes que d'autres. Par exemple, un ascenseur dans une tour très haute n'aura peut-être pas de compatibilité IPv6, mais la plupart des choses que vous pouvez acheter aujourd'hui sur le marché, si vous êtes un consommateur ordinaire, sont compatibles avec IPv6. Ça n'est pas un problème. Alors, quel est le problème ? Le problème, ça n'est pas l'outil ni le réseau. Le problème, c'est l'équipement à la maison de l'utilisateur. Le problème du CPE, c'est que les personnes qui le vendent en fonction du prix, c'est-à-dire plus il peut être bon marché à produire, mieux ce sera, parce que l'utilisateur ne fait attention qu'au prix finalement. Donc le budget est très réduit, ce qui veut dire que cet outil ne sera pas actualisé après 6-8 mois. Il sera laissé de côté, n'aura aucun entretien et il sera remplacé lorsqu'il cessera de fonctionner. La plupart de ces outils ne sont pas compatibles IPv6. D'ici 5 ans, il y aura un changement significatif dans l'utilisation des outils compatibles IPv6. Dans les modèles que les utilisateurs courants utilisent pour avoir accès à Internet. Ce que je vous montre ici, c'est un print écran de mon portable personnel T-Mobile qui est compatible IPv6. Sur cette image, j'ai mis un cercle rouge autour de l'adresse IPv6 à partir de laquelle je me connecte. Et de plus en plus, les gens se connectent à Internet par l'intermédiaire d'un portable, d'un téléphone portable. Donc, pour les milliers d'autres personnes, le téléphone portable pourrait être l'outil principal à partir duquel ils se connectent à Internet. Donc, peut-être que le problème du CPE n'est pas un énorme problème parce que nous avons plusieurs années ou quelques années pour le résoudre. Mais on peut le résoudre de plusieurs manières. L'une d'entre elles, c'est en utilisant des traductions d'adresses réseau. Ça a été développé au milieu des années 90. Et la façon dont on l'a utilisé à l'origine, c'est que chaque fournisseur de services Internet détient une adresse qui est partagée entre plusieurs utilisateurs. Donc, ce paquet est transmis à l'Internet et revient aux fournisseurs de services Internet par le modem des utilisateurs. Et jusqu'à présent, cela a relativement bien marché. Beaucoup de personnes détestent cela et voient cette traduction d'adresse réseau comme étant le mal. Mais voici quelle est la situation et jusqu'à présent, cela semble avoir relativement bien marché. Alors, même chose avec les CGNAT, donc les traductions d'adresse réseau des Carrier Grade. Donc, on utilise une adresse qui est partagée par plusieurs utilisateurs. Donc, il y a plusieurs traductions d'adresse réseau. Et c'est ce qui s'est produit sur les réseaux des téléphones portables pendant des années. Et pour les compagnies de téléphone qui le font depuis des années, elles ne voient pas quel est le problème. Mais les gens peuvent se connecter également à Internet en utilisant des ordinateurs portables. Ils veulent faire plus de choses. Donc, si vous utilisez iTunes ou Google Maps ou ce type de choses, vous pouvez avoir des douzaines de connexions en même temps. Parce que lorsque vous partagez une adresse, vous obtenez une part de cette connexion. C'est comme les chaîne sur une radio. Il y a plusieurs ports. Et si vous partagez 65 ports avec vos collègues au bureau, ça n'est pas un problème d'utiliser cette traduction d'adresse réseau. Mais si vous n'avez que 200 ports et vous voulez télécharger de la musique, voir une vidéo sur YouTube et voir comment vous rendre chez un client le lendemain sur Google Maps, alors là, vous avez un problème. Ça n'est pas un problème simplement pour vous en tant qu'utilisateur. L'un des problèmes qui se pose, c'est qu'il y a dans beaucoup de pays, pas tous, mais dans beaucoup, des réglementations en vigueur pour l'utilisation des connexion. Et en tant que carrier grade, vous devez connecter d'une certaine manière et ça, c'est très onéreux. Il ne s'agit pas simplement de vous connecter puis vous déconnecter. Il y a toute une série d'informations. Il faut une notification en termes de temps très précise, un archivage également des connexions Internet très précis. Donc si vous avez des milliers d'utilisateurs qui chaque jour font des connexions multiples, alors ça revient très très cher. Cela pose un certain nombre de problèmes. Ça pourrait être un avantage du point de vue commercial pour certains fournisseurs de services Internet. Et ils pourraient voir cela comme une opportunité de faire en sorte que les fournisseurs de contenu leur payent une somme pour faire en sorte que la connexion soit plus rapide, qui pourrait engendrer des droits réguliers. Et l'un des objectifs du protocole Internet serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et certains fournisseurs comme Viber, WhatsApp et un certain nombre d'autres qui n'ont pas encore inventé devraient avoir leur propre accord avec les fournisseurs de services d'Internet avant de pouvoir offrir leur service. Et s'il s'agit d'une start-up qu'elle n'a qu'un petit capital pour commencer, ça n'est pas quelque chose de viable. Donc, voyons où en sommes-nous avec l'IPv6.
Ce que nous avons ici, c'est une image avec les 50 plus importants qui a été moyenné dans les pays plus importants. Plus de 9% de ceux qui sont accessibles dans IPv6. Nous pouvons voir un pic là qui a été le IPv, le lancement global, et c'est le plus récent a été le changement à Cloudflare dans IPv6. Alors, c'est du contenu qui devient disponible en IPv6. Une autre façon de le voir, c'est l'information que publie Google de ses propriétés. Presque 3,5 de connectivité dans un IPv6. 3,5% des clients, peut-être, sont IPv6. C'est très bon. Arriver à 10% d'Alexa 50 et 3,5%. Ce que nous voyons, c'est le cycle. Cisco fait une autre analyse. On analysait ce qu'on a routé depuis que IPv6 a annoncé un blocage d'adresse de IPv6 en tant que disponibilité de contenu de sites Internet. Le plus vert le pays, c'est le meilleur le déploiement d'IPv6. Nous pouvons voir des pays en Europe qui sont particulièrement verts et d'autres pays qui sont presque complètement blancs, c'est-à-dire presque rien de déploiement de l'IPv6. Ce n'est pas inusuel dans les étages initiaux de ne pas voir de distribution. Ce que nous avons, par contre, si nous revenons, c'est un grand choc d'accroissement avec des lignes verticales, avec d'autres courbes accentuées dans le contenu des IPv6. Cette image de Cisco nous montre si cela peut être utilisé. Et nous avons beaucoup de verre et cela est en train d'augmenter. Si nous voyons comment ça peut se croiser les dernières années, le plan initial, le plan initial était jusqu'à 256 réseaux, chacun desquels pouvait avoir 16 millions d'adresses. Maintenant, nous avons une bonne quantité IPv6 qui 18 trillions d'adresses pour chaque segment. Et cela est beaucoup de segments d'adresses pour chaque abonné d'Internet. Il n'y a pas de problème d'adresse. Et 128 bits, ça va durer assez de temps. Alors, j'ai essayé de couvrir les aspects basiques ici. Et j'espère que ce que je vous ai décrit soit utile pour vous. Je serai très contente de répondre à vos questions. Je voudrais revenir à Olivier et vous remercier. Merci, Léo. J'allais, avant de commencer avec les questions, je voudrais passer la parole à Gisela Gruber pour nous informer par rapport aux règles du jeu pour cet appel. Gisela, vous avez la parole. Olivier, merci. Gisela, qui parle. Les lignes ont été muées et après, elles ont été unmuées dans l'Adobe et dans le pont audio. Si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, levez votre main dans le chat Adobe. Et s'il vous plaît, dites votre nom pour que nous vous donnions la parole. S'il vous plaît, mentionnez votre nom, pas seulement pour la transcription, mais pour permettre aux interprètes de vous identifier dans les canaux des autres langues. Si vous êtes connecté dans le 2, dans le pont et dans le Adobe, s'il vous plaît, mutez votre parleur dans l'ordinateur. Merci Olivier. Merci beaucoup Gisela. C'est Olivier maintenant. Et maintenant, nous allons recevoir les questions. Je ne vois aucune main levée. Je voulais poser une question par rapport à la proactivité de l'ICANN avec la transition d'IPv4 et IPv6. Qu'est-ce que l'ICANN peut faire pour aider à cette transition? Comme exemple, je pourrais vous dire que les clients qui sont les registreurs, les clients d'IP, la plupart des usagers finaux vont couper IPv4, ils n'ont pas fait la transition à IPv6. Léo? C'est Léo qui parle. Si je pense à votre question, vous avez parlé de couper IPv4. Ce type des choses, ça n'a pas marché. Il y avait une fois qu'il y avait une marque sur l'Internet, NCP, a été remplacée par IP. Basiquement, tout allait être fait le même jour. Il y a dizaines de milliers de dispositifs et de firewalls. On ne peut pas couper tout. Il doit avoir une autre descendante. C'est ce que fait l'ICANN. Ce que l'ICANN peut faire et ce qu'il a fait, c'est que l'ICANN peut travailler avec ses clients afin de promouvoir IPv6 dans quelques cas. Par exemple, dans le TLD de niveau pays, afin de les encourager pour adopter accessibilité IPv6 pour les serveurs, des noms et les registrations bleues, etc., pour les clients. Et la partie contractée, les GTLD, registres, il y a dans le dernier contrat, c'est une règle d'avoir compatibilité IPv6 pour les registres. Ils doivent avoir service de nom accessible à IPv6. Ils doivent supporter toutes les opérations de registre régulières dans IPv6. Pour les bureaux d'enregistrement, ils doivent s'assurer que le service WHOIS soit disponible sur IPv6 et qu'ils doivent supporter un enregistrement bleu IPv6 quand il est sollicité par leur client. Il est possible que les gens ne savent pas ce que c'est l'enregistrement bleu. Si vous avez un nom de domaine, par exemple ICANN.org, il y a un serveur de nom. On ne peut pas demander à NIST.org où ça est parce que vous devez le savoir. Ce qui se passe, c'est que le parent a une chose qui s'appelle Glue et l'adresse IP est une clé pour afin de ne pas demander le nom. cela doit être enregistré dans le registre et les envoyeurs d'enregistrement doivent supporter cela. Et la GLU d'IPv6 est maintenant disponible de tous les bureaux d'enregistrement qui ont signé le dernier accord. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si j'ai compris la partie, j'ai entendu la partie finale de votre réponse. Oui, c'est supporté par tous les bureaux d'enregistrement qui ont signé le dernier accord d'enregistrement. Merci beaucoup. Léo, nous avons une main dans l'Adobe Connect qui vous parle Mwenda Mendoa. Dans quel canal êtes-vous? Anglais, français, vous avez la parole. Allô? Initialisation de IPv6 qui est minimal à part Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Qui vous va? Est-ce que vous avez entendu? Votre ligne qui vous va était très faible, mais j'ai compris votre question. Léo, est-ce que vous avez compris? Oui. Je pense que la question était une déclaration que l'Afrique de l'Est et du Sud ont le déploiement IPv6 plus fort en Afrique que dans le reste, il y en a peu. Qu'est-ce qu'on a fait pour corriger cela? Il y a beaucoup qu'on a fait du point de vue de l'enseignement par rapport aux opérateurs d'Internet en Afrique. L'une des activités que les gens qui ont des réseaux font, c'est d'avoir des groupes d'opérateurs. En Afrique, c'est l'AFNOR, le groupe d'opérateurs de réseaux d'Afrique, dans des pays, dans des régions aussi, il y a des groupes d'opérateurs de réseaux. Par exemple, SAFNOC, qui est le groupe d'opérateurs de la région d'Afrique du Sud. Il y en a d'autres à Ghana et d'autres. Et ce groupe, dont on mène les activités d'entraînement, il y a la coutume d'aller à un nouveau pays tous les 6 mois pour laisser des ingénieurs entraîner et de laisser quelques équipements aussi. En plus, il y a des travaux qui font les NSRC, qui sont les centres des réseaux, des ressources, des réseaux, qui donnent de l'entraînement pour IPv6, pour les opérateurs de réseau et pour les opérateurs TLD à niveau pays. ICANN a récemment incorporé une nouvelle personne pour aider dans ces aspects techniques de divulgation externe et d'entraînement. Il s'appelle Steve Conti, qui a travaillé pour ICANN dans le passé. Il a fait ce genre de choses quand il travaillait à l'ISOC, et maintenant il travaille à ICANN pour continuer à faire son travail. Si vous voulez, nous pouvons vous mettre en contact avec Steve Conti, et il pourra vous donner une réponse détaillée l'endroit où vous habitez.
Merci.
C'est Olivier qui parle. Merci de votre question. Est-ce que vous va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez parlé de l'extension de l'Internet et du IPv6 en Afrique. C'est un continent intéressant parce qu'apparemment il y a quelques pionniers. Et cela avance dans le continent très rapidement. Tous les pays ont été couverts par l'Internet. Et cela est arrivé dans quelques mois seulement. C'est possible que pour IPv6, nous verrons une vague semblable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Personne lève la main. Nous avons eu un appel assez court. Je voudrais remercier Léo de cette conférence très intéressante sur l'IPv6. Et nous espérons voir plus IPv6 partout dans le monde. Votre explication par rapport à la traduction d'adresse Internet. Raison. Ce sont des choses qui sont importantes pour les usagers finaux d'Internet parce que les coûts sont payés par les usagers d'Internet. Alors, il semble que IPv6 sera une option meilleure par rapport aux coûts. Merci beaucoup de votre présentation très claire. La présentation sera disponible, comme toutes les présentations, dans le ICANN, développement des capacités. Après, on vous donnera des informations. Nous avons Heidi qui vous indique où sont les outils. Vous pouvez les rechercher toutes les présentations de là, depuis là. Nous allons continuer notre discussion quand nous réunirons face à face à Londres, si nous voulons savoir où sera la prochaine présentation. Heidi le met déjà dans le chat. Le futur de la gouvernance Internet, partie 1, Olivier Crapin-Leblanc. Nigel Hickson et moi-même parlerons de cela. Nigel parlera une semaine après. Et moi, je parlerai cette semaine-là. Ce sera après le net mondial qui aura lieu au Brésil, qui va commencer mercredi. Beaucoup d'entre nous seront là pour parler de la gouvernance Internet. Dans ma première présentation, j'essaierai de donner quelques informations sur les aspects de la gouvernance Internet et ce qui concerne ICANN directement. De toute façon, je vous espère tous la semaine prochaine. Si vous avez plus de questions pour Léo, je suis sûre que vous les pouvez envoyer par email. Bon, merci beaucoup. Olivier est tombé. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci d'avoir rejoint cet appel. On va déconnecter l'audio. Cette session est finie. Désolé, Olivier. Merci et au revoir.